12. Du soin de l'État pour la sûreté au moyen de la décision. Juridique des difficultés qui naissent entre les citoyens. Chapitre 12. 2. Et c'est sur les limites de l'action de l'État. Par Wilhelm von Humboldt, 1767-1835. Traduit de l'allemand par Henri Chrétien en 1867. La sûreté des citoyens dans la société repose surtout sur la remise faite à l'État du soin de poursuivre l'observation du droit. De cette remise découle pour lui le devoir de donner alors aux citoyens ce qu'ils ne peuvent plus se procurer eux-mêmes, c'est-à-dire le pouvoir de décider, en cas de contestation, de quel côté est le bon droit, et de protéger, dans la possession de ce droit, celle des parties qui est jugée l'avoir pour elle. En ceci, l'État seul prend, sans se préoccuper de son propre intérêt, la place des citoyens. En effet, la sûreté n'est réellement détruite qu'aucun celui qui souffre ou prétend souffrir dans son droit ne veut pas subir l'atteinte qu'il ressent. La sûreté n'est point troublée si celui-ci souffre, volontairement, ou s'il a des raisons pour ne pas poursuivre l'observation de son droit. Même si l'abstention venait de l'ignorance ou de l'apathie, l'État ne devrait point intervenir. Il a suffisamment rempli son devoir quand il n'a pas donné lieu à ses erreurs par la complication, l'obscurité ou l'insuffisante publicité des lois. Ces mêmes principes s'appliquent à tous les moyens dont l'État se sert pour découvrir le droit, quand on le poursuit réellement. Car il ne doit jamais faire un pas au-delà de ce que réclame de lui la volonté des parties. La première règle de toute organisation de la procédure devrait donc spécifier qu'on ne rechercherait jamais la vérité en elle-même, au point de vue absolu, mais seulement dans les limites où le demanderait la partie, qui, en général, aurait le droit d'en obtenir la recherche. Mais il existe encore sur ce point d'autres restrictions. Ainsi l'État ne doit point déférer à toutes les exigences des parties, mais seulement à celles qui peuvent servir à éclaircir le droit en litige, et qui tendent à demander l'emploi de moyens dont, même en dehors du contexte étatique, l'homme peut user contre l'homme. À la vérité, il en est ainsi dans le cas seul, où c'est un pur droit qui est en litige entre les contestants, point dans le cas où l'un a enlevé à l'autre quelque chose, soit d'une manière générale, soit d'une manière positive. L'intervention de l'État n'a rien à faire ici qu'à assurer l'emploi de ses moyens, et à en protéger l'efficacité. De là vient la différence entre la procédure civile et la procédure criminelle. Dans la première, le moyen suprême dans la recherche de la vérité est le serment. Dans la seconde, l'État jouit d'une plus grande liberté. Dans l'étude du droit en litige, le juge se trouvant, pour ainsi dire, entre les deux parties, son devoir est d'empêcher que l'une d'elles soit, ou entièrement frustrée, ou retardée dans l'obtention de sa demande par la faute de l'autre partie. De là la seconde règle nécessaire qui commande de surveiller attentivement les procédés des parties durant le litige, et de les empêcher de s'éloigner du but commun au lieu de s'en rapprocher. L'observation exacte et continue de ces deux règles produirait, je pense, la meilleure organisation de la procédure. S'écarte-t-on de la seconde, aussitôt l'esprit de chicane des parties, la négligence et les vues intéressées des représentants judiciaires ont trop beau jeu. Les procès deviennent compliqués, interminables, coûteux. Et, malgré cela, les décisions sont fausses, contraires et à l'intérêt et à l'intention des parties. Ces inconvénients ont même pour effet certain d'augmenter le nombre des disputes judiciaires et d'alimenter le recours au procès. Néglige-t-on, au contraire, la première de ces règles, aussitôt, la procédure devient inquisitoriale. Le juge a un pouvoir excessif, il pénètre dans les plus secrètes affaires des citoyens. On trouve dans la pratique des exemples de ces deux extrêmes, et l'expérience confirme que si le dernier restreint à l'excès, et illégitimement la liberté, le premier est nuisible à la sûreté de la propriété. Pour la recherche et la conquête de la vérité, le juge a besoin de ce qui sert à la faire reconnaître, de moyens de preuve. Aussi a-t-on observé que le droit n'est vraiment valable et efficace que quand il est susceptible d'être prouvé devant le juge, dans le cas où il viendrait à être contesté. C'est un nouveau point de vue que le législateur ne doit pas négliger. De là vient la nécessité de nouvelles lois restrictives, notamment de celles qui commandent de donner aux actes conclus un caractère distinctif, à l'aide duquel à l'avenir, on pourrait reconnaître leur validité. La nécessité de semblables lois diminue, à mesure que l'organisation judiciaire atteint un plus haut degré de perfection. Elle est d'autant plus grande que cette organisation est plus défectueuse et qu'il lui faut plus de signes extérieurs en tant que preuve. Aussi est-ce chez les peuples les moins cultivés que se rencontre le plus grand nombre de formalités. Chez les Romains, la revendication d'un champ exigea successivement la présence des parties sur le champ lui-même, puis l'apport d'une motte de terre devant le tribunal, puis des paroles solennelles, puis enfin plus rien de tout cela. Partout, mais principalement chez les nations peu cultivées, l'organisation judiciaire a eu, par suite, sur la législation, une influence très forte, et il s'en faut beaucoup qu'elle ne s'exerce que sur de simples formalités. Je rappelle ici, à titre d'exemple, la théorie romaine des pactes et des contrats, théorie expliquée incomplètement jusqu'aujourd'hui, et qu'il est difficile de considérer à un point de vue autre que celui-ci. L'étude de cette influence sur les législations à des époques et chez des nations diverses serait fort utile à beaucoup d'égards, mais elle le serait spécialement pour juger lesquelles de ces lois sont d'une nécessité générale et lesquelles sont seulement le fruit des conditions locales. Car, en admettant que cela fût possible, je ne pense pas qu'il fût bon d'abroger toutes les restrictions de cette nature. Si l'on diminue trop peu la possibilité de frauder, par exemple de glisser de faux documents, etc. Alors les procès se multiplient, ou bien, car on pourrait peut-être ne pas y apercevoir un grand mal, les occasions de troubler le repos d'autrui, en soulevant de vaines difficultés, deviennent par trop variées. C'est précisément cet esprit querelleur, développé par les procès, qui a sur le caractère la plus funeste influence, sans compter le tort qu'il fait au bien, au temps, et au repos d'esprit des citoyens. Et ces inconvénients ne sont compensés par aucune conséquence utile. Au contraire, le tort des formalités est de rendre les affaires difficiles et de restreindre la liberté, ce qui est toujours dangereux. Par conséquent, la loi doit prendre un moyen terme. Ne jamais établir de formalités qu'en vue d'assurer la validité des actes, d'empêcher les fraudes ou de faciliter les preuves. Même dans cette intention, l'État ne doit exiger de formalité que quand les circonstances particulières les rendent nécessaires, quand, sans elles, il serait plus facile de craindre les fraudes, et trop difficile d'arriver à les prouver. Il doit, sur ce point, ne prescrire de règles que celles dont l'observation n'est pas liée à trop de difficultés. Il doit les écarter entièrement dans tous les cas, où le soin des affaires deviendrait par elles non seulement plus difficile, mais à peu près impossible. Le respect de la sûreté et de la liberté nous paraît donc conduire au principe suivant. Un degré un des principaux devoirs de l'État est d'étudier et de décider les litiges juridiques entre les citoyens. En cela, l'État se met au lieu et place des parties. L'objet de son intervention est, d'une part, de les protéger contre les prétentions injustes et, d'autre part, d'attribuer aux prétentions légitimes ce poids que les citoyens eux-mêmes ne pourraient leur donner sans troubler la paix publique. Il doit, par suite, pendant la recherche du droit en litige, suivre la volonté des parties, en tant qu'elles ne se fondent que sur le droit, mais empêcher chacune des parties de se servir de moyens illégitimes contre l'autre. De degré, la décision du droit litigieux par le juge ne peut être prise que suivant des modes de preuve déterminés et organisés par la loi. De là vient la nécessité d'une nouvelle espèce de loi, c'est-à-dire de celles qui ont pour objet d'attribuer aux actes juridiques certains caractères déterminés. Dans la rédaction de ces lois, le législateur doit nécessairement être guidé par le désir d'assurer convenablement l'authenticité aux actes légitimes et de ne pas rendre la preuve trop difficile dans les procès. D'ailleurs, il doit toujours se rappeler et craindre l'excès contraire, la trop grande complication des affaires, et ne jamais avoir recours à une prescription qui, en réalité, reviendrait plus ou moins à en arrêter le cours. C'était du soin de l'État pour la sûreté au moyen de la décision juridique des difficultés qui naissent entre les citoyens. Fin du chapitre 12.